à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission à la découverte de la création sonore et radiophonique. Au programme aujourd'hui, un docu-fiction intitulé « Comment regarder plus loin » de Mélanie Godin et Renaud Lambiotte, à nouveau une production belge grâce à nos amis de la CSR et du FACR, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui participe au financement de cette production de l'Arbre de Diane. C'est un voyage sonore dans le monde des femmes, de la création et des sciences qui vous est proposé. Quelle est la vie au quotidien des mathématiciennes? Comment entendre, ressentir, rêver le monde des mathématiques? Son langage dit-il autre chose de notre monde ou en crée-t-il un autre? Quelles sont celles qui les pensent, les créent, les révèlent? Dans cette création radiophonique, l'auditeur est amené à rencontrer plusieurs femmes de lettres et de sciences. Des témoignages de scientifiques contemporaines se succèdent pour évoquer leur vie et leur travail. En réponse, des textes écrits par des autrices belges viennent imaginer des fragments de vie de femmes scientifiques encore trop méconnues. L'ensemble est habillé de compositions sonores, inspirées par les découvertes de femmes comme les symétries du théorème de Noether, les fonctions harmoniques du tambour de Leda Galué, la recherche de cimes dans les montagnes multidimensionnelles de Coralia Cartis ou les nombres premiers de Sophie Germain. Cette création que vous allez entendre est une proposition à la fois poétique, mystérieuse, réparatrice, ambitieuse et ludique. Une belle mise en onde d'un monde trop souvent considéré comme inaccessible et dont les facettes constituent un cairn sur la route de la reconnaissance des femmes dans le monde de la création. Belle découverte de cette création sonore. Bien entendu, l'ensemble des crédits seront présentés dans le docu-fiction.
La dérivée par rapport à Z, de Z exposant moins nu fois JH nu de Z, est égal à la dérivée par rapport à z de 2 exposant moins nu fois la somme pour tous les k allant de 0 à l'infini de moins z carré sur 4 exposant k divisé par gamma de 1 plus nu plus hk fois la factorielle de k.
Comment regarder plus loin ? Un documentaire radiophonique de Mélanie Godin et de Renaud Lambiotte.
Deux. Trois. Cinq.
Je m'appelle Ingrid Daubechy, je suis mathématicienne. Depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'ai toujours été intriguée de savoir comment les choses marchent. Comment des choses que j'observe peuvent être expliquées. un soir, je me souviens, j'étais toute petite, nous avions un petit tigre en plastique, une petite tête de tigre qui était suspendue de notre rétroviseur dans la voiture. Et nous passions le soir dans une rue éclairée avec des lampes de sodium. Donc l'éclairage était orange. Du coup, le tigre avait perdu toute sa couleur. J'étais horrifiée, je dis, notre tigre, il est devenu tout blanc. Alors mon père m'a expliqué que non, il était toujours aussi orange. Mais comme la lumière était orange, tous les objets blancs dans la voiture aussi paraissaient orange. Mon cerveau corrigeait et donc voyait tous ces objets orange de la même façon. Du coup, mon tigre paraissait blanc. Alors, je ne l'avais cru qu'à moitié, je dois dire. Ça me paraissait bizarre. Mais je me souviens encore d'être allée regarder le tigre le matin après. Et il était là, dans toute sa splendeur orange. Alors, j'ai posé davantage de questions. Mon père encourageait la curiosité chez ses enfants. Alors, il m'a montré un filtre vert. Quand on regardait des choses, tout paraissait vert. Il m'a expliqué que les lumières, les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'elles sont toutes présentes dans les lumières blanches. Il y a des nombres comme 12 qui ont la particularité d'avoir beaucoup de diviseurs. J'étais très jeune, mais je savais bien que quand on avait 12 objets, on pouvait les ranger en plusieurs rangs de longueur égale, de plusieurs façons. On peut mettre 6 de 2, on peut mettre 4 de 3, etc. Et qu'avec un nombre comme 13, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, les mathématiques sont vraiment observer des choses, les nommer et alors raisonner avec ces concepts qui sont déjà abstraits et voir que ces abstractions et leurs liens peuvent se retrouver dans beaucoup de cadres différents.
Eta 0 fois E exposant I oméga 0 de mx est égal au résidu de moins 1 exposant n plus fois le produit pour tous les gamma positifs de gamma de psi au carré divisé par 2 pi exposant s moins 2 fois la valeur absolue de w fois le volume de t multiplié par la somme pour tous les f dans f tilde de E exposant I muté de f de psi fois l'intégrale sur f
Inge Lehmann. Si Inge Lehmann avait pu, comme dans une fiction, écrire le déroulement de sa vie au fur et à mesure de l'écoulement de ses jours, elle qui avait fréquenté une école mixte, où la notion de genre importait peu, aurait, dans ce roman rédigé de sa main, continué sur sa lancée. Elle se serait jointe naturellement à ses collègues scientifiques, pour la plupart des hommes. Mais pour que la vie de Inge s'oriente autrement, La légèreté d'une plume d'oie sur une feuille vierge n'aurait pas suffi. Jeune femme, elle entrait dans un texte que d'autres écrivaient pour elle. Pour elle et ses sœurs, depuis des lustres. Nous sommes en 1911. Après son bac dans une école progressiste, elle part étudier à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Là, elle accuse le choc. Dans le livre de chair et de sang que Inge aurait écrit, l'héroïne n'aurait pas été contrainte de se limiter à assister à des conférences. Elle aurait pu utiliser les bibliothèques, les laboratoires de l'université et n'aurait pas été chaperonnée pour pouvoir rencontrer son ami Niels Bohr. Dans ce livre vivant, écrit par la principale intéressée, elle ne serait pas rentrée si vite au Danemark, n'aurait pas interrompu ses études pour travailler dans un bureau d'assurance, faute d'autre chose. Heureusement, ce ne sera pas le dernier chapitre de sa vie. Après quelques mois d'ennui, elle se saisit de la plume confisquée, cette plume invisible qui, lorsqu'on en prend conscience, se trempe dans l'audace, le risque, la détermination. Elle reprend le récit de son existence là où, pour d'autres, il devrait se conclure, bien décidée à ne pas le laisser dériver vers cette fin annoncée. Nous sommes à une époque où le noyau central de la Terre se pensait liquide. En 1929, un séisme important secoue la Nouvelle-Zélande. Inge en étudie les ondes de choc et s'étonne des résultats. Voilà qui l'amène à émettre l'hypothèse que ces ondes ont parcouru une certaine distance dans le noyau avant de rebondir sur une sorte de limite. Une limite dure, et non molle comme on le pensait auparavant. 7 ans plus tard, elle publie un article qui décrit le centre de la Terre avec un noyau interne solide, entouré d'un autre noyau liquide. Tous deux séparés par ce qu'on appellera plus tard la discontinuité de Lehmann. Aux États-Unis, Inge Lehmann devient l'une des plus grandes expertes mondiales en sismologie. Elle reçoit des prix, des distinctions académiques, renommée qui sera ignorée dans son pays d'origine. Inge Lehmann avait tant de temps à rattraper pour parachever le livre de sa vie qu'elle attendit ses 105 ans avant d'accepter d'y mettre un point final et de se laisser glisser jusqu'au cœur de la Terre. Un cœur bien dur qui s'était ouvert à elle.
Tremblement de terre. Noyau. Circonférence. Centrale. Glissement. Discontinuité. Convergence. Latitude. Méridien. Limite.
Je suis Claire Voisin, je suis actuellement professeure au Collège de France. J'occupe une chaire de géométrie algébrique. Mais auparavant, j'étais chercheure au CNRS pendant 30 ans, en fait. Actuellement, je rédige un article qui est presque fini et je pense qu'il montre un résultat assez important. Et il y a un trou dans cet article, il y a une démonstration qui n'est pas terminée. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un peu la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je n'arrive pas à me concentrer suffisamment pour terminer, combler ce trou. Bon, peut-être parce qu'il y a une difficulté formelle ou technique. Mais une des raisons, c'est que je suis absolument convaincue que l'énoncé est vrai, c'est un énoncé très général. Même la plupart des gens, voyant l'énoncé, auraient tendance à dire qu'il est tellement naturel que très probablement il est vrai. Mais c'est précisément à cause de ça que j'ai du mal à faire l'effort de formaliser totalement la démonstration, sachant qu'il y a un passage tout à fait technique. Mais je n'ai pas réussi, ça fait plusieurs années que ça dure, à mobiliser ma concentration pour régler ce problème technique. Donc là, je suis un peu mécontente de moi parce que franchement, c'est quelque chose qui est presque terminé. Je devrais m'y remettre. mais je sais que j'aurais besoin peut-être d'un mois très concentré. C'est une situation désagréable. C'est un beau théorème, un bel énoncé, mais je suis un peu démotivée pour terminer techniquement la démonstration. C'est un combat, contre soi-même, contre sa propre paresse, contre ses propres limites, contre ses difficultés à se concentrer. Un combat aussi pour se convaincre que tel énoncé est suffisamment important pour qu'on consacre du temps, qu'on fasse l'effort de mettre en place une démonstration, sachant que dans une démonstration complète, il y a des détails qui ne présentent en eux-mêmes aucun intérêt. Parfois, des lemmes sont intéressants, mais souvent, les lemmes ne sont pas intéressants en eux-mêmes. Il faut accomplir tout ce travail malgré tout. Je pense que c'est pour ça que petit à petit, les mathématiciens, à un certain âge, cessent de publier. C'est qu'en fait, la vraie belle partie du travail, ça consiste essentiellement à rêver sur ce qui peut être vrai, sur ce qu'on aurait envie de faire, à contempler plutôt l'univers mathématique. Et quand on veut vraiment montrer, terminer des démonstrations, eh bien, il y a tout un aspect qui n'est pas toujours très plaisant, en fait. Bien sûr, il y a quelque chose de très gratifiant. La raison pour laquelle on ne laisse pas tomber, c'est qu'on est très accro et qu'on veut montrer, ce théorème. C'est notre raison d'être, momentanément.
Réveillez-vous doucement. Étirez-vous dans la mollesse argentée des heures et le câlin de quelques rayons de soleil. Voyagez, paupières mi-closes encore, dans le paysage des raies spectrales. Allez jusqu'au rouge qui enflamme votre passion de chercheur. Et pour fêter la trouvaille, continuez jusqu'au violet. Applaudissez le feu d'artifice de votre enthousiasme.
quatre-vingt-trois, quatre-vingt-neuf, cent treize, cent trente et un, cent soixante-treize, cent soixante-treize, cent soixante-dix, cent soixante-dix-neuf.
Souvent, quand j'enseigne, donc je dérive toujours tout au tableau, il m'arrive de faire de petites erreurs qui se compensent. Il m'arrive très souvent de le faire. Trop souvent pour que ce soit simplement un hasard. Je crois que parfois j'écris des choses, mais j'ai en tête ce que j'aurais dû écrire. Et je compense plus tard. Donc je dis toujours à mes étudiants, c'est pour qu'ils suivent, qu'ils détectent. Mais en fait, ça vient complètement, naturellement. Je ne le fais pas exprès. Une véritable erreur, c'est quand on a un blocage. Donc, de croire que ceci et cela rend une autre chose qu'on aimerait impossible, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il y a un blocage mental qu'il faut faire sauter. J'ai eu de ces blocages mentaux que j'ai dû faire sauter, ça je m'en souviens.
J'aime bien prendre l'image de l'escalade, même si elle peut donner l'impression que les mathématiciens sont un peu des sportifs qui accomplissent une performance. Dans l'image de l'escalade, il y a cette étape où vous ne faites rien. Vous contemplez la voie et vous analysez. Et il y a le moment de révélation où vous imaginez la voie possible qui va vous permettre de passer. Là où, a priori, il y a quelque chose qui est infranchissable.
191, 233, 239, 251, 281,
181. L'été dernier, j'étais allée au cirque de Gavarnie. C'était vraiment sensationnel. J'ai vraiment retrouvé les sensations d'enfance, parce qu'autrefois, aux vacances, j'allais à la montagne, dans les Alpes. Et chaque fois que vous gagnez en hauteur, à chaque lacet, vous voyez apparaître un paysage qui va de plus en plus loin. Et c'est vraiment des plans et des nouveaux arrière-plans que vous découvrez. Et c'est vrai que faire des mathématiques, c'est vraiment un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous connaissez plus de choses, que vous avez structuré votre savoir mathématique, en fait, vous découvrez, c'est le paysage qui change. Ce paysage, c'est une sorte de paysage mental qui forme votre culture mathématique, une culture qui est faite pas seulement d'énoncés, de techniques que vous connaissez, mais aussi qui est faite de problèmes, de ce qu'on appelle des conjectures. C'est vrai que cette apparition successive des différents plans du panorama, de plus en plus éloignés, ça m'a vraiment fait penser à ce qu'on connaît, nous, dans notre réflexion. Disons, plus vous êtes haut et plus vous voyez des choses qui sont encore plus hautes, des sommets qui vous appellent à aller encore plus loin.
Je m'appelle Lucie Domino, je suis postdoctorante au département de mathématiques à l'université d'Oxford. Donc j'ai fait une thèse en physique et là je suis au département de mathématiques pour faire des mathématiques appliquées et en fait faire des expériences. Et voilà. Voilà, donc ça c'est la manip qui se met à tourner. Quand on fait tourner un aquarium d'eau ou un verre ou peu importe, on crée une surface parabolique. Alors une forme parabolique, c'est une forme qui a une courbure de Gauss positive. Voilà, elle est courbée dans les deux directions. Et puis à la surface de l'eau, j'ai fait flotter ma membrane qui, elle, a une courbure de Gauss zéro. Donc ces deux objets sont incompatibles. Donc la membrane va être obligée de faire des rides, de faire des plis pour accommoder cette incompatibilité. Donc c'est une compétition entre l'élasticité de la membrane et la forme de l'eau. C'est un petit peu comme enrober une orange avec du papier, sauf que l'orange c'est de l'eau qui tourne et le papier c'est ma membrane qui flotte.
Binaire, brownien, Entropie. Spirale. Calculateur. Chaos. Fractal.
Marie Singou. Il fait déjà chaud à 8h du matin ce lundi 20 juillet 1953 quand Marie Singou entre dans la salle où l'attend son maniaque. C'est le nom de l'ordinateur sur lequel elle travaille. Un mastodonte informatique haut et large comme un mur, plein de lampes, d'interrupteurs et de fils qui ne vont pas tarder à chauffer eux aussi. En ce 20 juillet 1953, Marie Tsingou est plongée dans un problème totalement nouveau. Programmer la simulation numérique d'un système physique. Personne n'a jamais fait ça sur un ordinateur. C'est Enrico Fermi qui a lancé l'idée. Le grand physicien, prix Nobel en 1938, s'intéresse au système dynamique non linéaire, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux tourbillons, aux tsunamis, aux embouteillages ou à la mayonnaise. Qui prend d'un coup et pas petit à petit. Pour comprendre le comportement énergétique de ces systèmes, il faut créer un modèle virtuel. Et le maniaque pourrait servir à ça. Fermi met au point une version idéalisée d'un solide, fait d'atomes en vibration, avec ses collègues Stan Ulam et John Pasta. Marie Tsingou va, elle, transcrire ses équations en un algorithme en apparence très simple. Une chaîne de 32 particules reliées par autant de ressorts. Quelles instructions donner à l'ordinateur pour qu'il réalise l'expérience? Il faut les inventer de A à Z. Pendant 10 jours, Marie met toute sa perspicacité et sa créativité de mathématicienne informaticienne à l'épreuve. Comment aligner le nombre de particules? Définir la loi d'étirement des ressorts? Donner une condition initiale, ce point-là à telle vitesse. Établir les conditions aux limites fixes de la chaîne. Ce lundi matin, son algorithme est prêt. Elle tape consciencieusement les instructions sur une carte perforée qu'elle glisse dans la machine. Le mastodonte se met en marche. Le maniaque clignote ferme. Elle adore ces voyants qui s'allument ici, puis là, et lui donnent l'impression de suivre en direct l'enchaînement des opérations qu'elle a programmées. C'est bon. Le calcul prendra plusieurs heures. Ça laisse à Marie le temps d'aller chercher un café et un muffin aux myrtilles. En début d'après-midi, quand elle revient dans la salle, un graphique s'anime lentement sur... Yes! I did it! Marie a les joues en feu. La simulation montre la chaîne de particules qui entrent en vibration et l'énergie qui se propage d'un ressort à l'autre, puis se répartit de façon homogène dans les ressorts, comme prévu. Elle téléphone à John. It works! Come to see it! Mais quand elle retourne à son graphique, elle voit que l'énergie est revenue au mode initial et qu'elle se repropage à nouveau. Et puis encore, et encore, sans fin, dirait-on. Y aurait-il eu un bug dans le programme? Elle revérifie son algorithme. Il est correct. Et le maniaque n'a pas l'air en panne. So what? Marie est sur des charbons ardents et son cerveau bouillonne. Tandis que sous ses yeux, la chaîne vibrante poursuit ses complexes révolutions périodiques, elle entrevoit une dimension nouvelle et totalement paradoxale de la physique. Sur ce, Pasta, Ulam et Fermi en personne déboulent. Eux non plus n'en reviennent pas, ne comprennent pas. Mais tant mieux, ça prouve qu'il y a encore beaucoup à connaître.
So exciting. Congratulations, Marie. Without you, we couldn't have discovered that.
Ils dansent presque autour de l'ordinateur, toujours clignotant, et les collègues programmeuses de Marie allument la radio pour fêter ça.
Oh, you grab a little gal and you circle like a top when you jump across the floor with a skip and a hop. Your pants rolled up and you're trucking on down with a pretty little gal in a red silk gown and I'm gone till the break of day. It's the real rock drive and the played in a real gone way.
L'article ne sera publié qu'en 1955. Sur la première page, on peut lire « Rapport rédigé par Fermi, Pasta et Ulam », alors que Fermi était mort un an plus tôt. Aucune mention de Tsingu comme co-auteur, alors que ses graphiques figurent dans la publication. Marie est juste mentionnée comme collaboratrice de travail. Et deux lignes discrètes la remercient pour la programmation efficace du problème et pour avoir effectué les calculs sur l'ordinateur maniaque de Los Alamos.
Il faut être mordu pour faire de la recherche en mathématiques comme une profession. Parce que la plupart du temps, quand on veut comprendre, on a l'intuition qu'il y a quelque chose et on ne trouve pas. On est bloqué. On essaye par plusieurs chemins et parfois on a l'impression d'avoir attrapé une partie, mais ce n'est qu'une partie, une autre partie reste élusive. Donc on est toujours frustré. Évidemment, le moment vient où tout marche. Comme par miracle, les morceaux bougent, on a appris à mieux les manipuler. Alors, clac, tout tombe en place. Et alors, ça, c'est un moment absolument merveilleux. Il faut au maximum apprécier cette joie, parce que ces moments sont assez rares.
J'ai eu des moments comme ça quand j'étais enfant. Mon père était un homme avec qui je n'étais pas sur un pied de familiarité, donc pouvoir lui expliquer une démonstration que j'avais comprise, c'était pour moi quelque chose de très structurant pour ma personnalité. Le moment où on maîtrise une démonstration, ça donne un sentiment d'existence, d'authenticité profonde.
Février 2019, Healy Show Cell Poking Experiment. Même manip que précédemment, CF page 5, sauf les dimensions de la plaque, 5 cm de diamètre et 17 cm pour le côté, tout le reste est identique. On veut s'assurer que T sur D est petit, on prend donc des membranes de 6 microns d'épaisseur qui seront OK pour des gaps de 40 microns. Image 92, 0 mm d'indentation. Image 93, 3,6 mm. Image 94, 4,5 mm d'indentation. Image 95, 5,5 mm d'indentation. Image 96, 6,5 mm d'indentation. Image 97, 7,5 mm d'indentation. Fin des expériences. Edith, en fait c'est une idée pourrie que j'ai déjà eue il y a 6 mois. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà fait qui n'a pas marché.
S'il n'y avait pas de lune, il n'y aurait pas de moi. La mer immobile, pas de marée d'équinoxe, pas de nuit claire, les étoiles occultées, pas de face, pas de chant à la lune, la phobie des éclipses. Pas d'endroit où se tenir pour regarder la terre se lever.
J'aime énormément être seule. Pour moi, tout ce qui est conversation, même aller des dîners, j'évite les dîners parce que ça va être des conversations à l'infini. Je suis obligée de trouver ça horriblement fatigant. Et il y a quelque chose dont j'ai absolument horreur, c'est de discuter des mathématiques que je fais au moment où je suis en train de les faire. À ce stade un peu de gestation, les choses sont encore très confuses. On ne comprend rien, on ne dit que des sottises, on fait des erreurs de calcul à toutes les lignes. Les choses ne sont pas encore formulées pour qu'on puisse les transmettre de façon efficace. Ce stade informel, je trouve déjà suffisamment pénible à vivre pour moi, mais si en plus il fallait greffer là-dessus de la communication, c'est vraiment une difficulté supplémentaire. Je ne sais pas comment font les gens pour collaborer, tellement pour moi c'est problématique. Les mathématiques, c'est un monde à part entière, un monde dans lequel on n'a pas tellement besoin des autres, je veux dire, on n'a pas besoin que les autres nous tiennent la main. La communication est extrêmement importante, mais quand on fait des mathématiques, on est vraiment environné d'un monde qui est d'une telle richesse, qui s'impose à nous avec une telle force qu'il n'y a plus la place pour quelconque sentiment d'ennui. On est totalement rempli de quelque chose avec lequel on se sent une grande adéquation.
X F M H B B K L Epsilon A T T T T X K infini K S K K I est égal à P égal à T T 1 à T 2 à T 2 égal à K dépend de Q de T plus M la dérivée temporelle de M égal à 1 plus Epsilon J T nu plus F est égal à K Q est égal à V plus M K sur M et Q T X
Cecilia Payne. Le regard, l'importance de ça. Celui qu'elle a sur les photos, déterminé, direct. Celui qu'elle pose sur vous, sur tout. comment elle scrute les autres, le monde autour. Le sens de l'observation, du détail, la volonté d'apprendre, la soif de comprendre. Dans ce regard-là, depuis toujours, la profondeur. Quelque chose de sombre aussi, qui cherche. L'infiniment petit ou grand, les liens et les preuves. Disséquer ce qu'on voit, les reflets, les indices. Expérimenter avec le réel, les fourmis, les lichens, les chemins, les collines, les mésanges, la pluie, ce qui pousse, tombe, moisit, germe, sèche, surgit, les orchidées sauvages, l'érablière au fond du jardin, l'épaisseur de la neige, les nuées, le sommeil, les étoiles. Une enfance anglaise, déjà aux marges d'autre chose. Des origines allemandes, une ouverture précoce à la science, un père disparu trop tôt. La campagne, un havre de vallon où elle grandit, lui manquera toujours, après. La lumière, le vert, l'humide, une certaine douceur, une odeur, des champs. De la mort du père, on ne parle pas. C'est un choc, elle a 4 ans. La musique, les livres, les arbres, ses refuges. Elle n'a pas peur du noir, non. Au contraire, tout au fond, quelque chose l'attire. Savoir ce qu'il y a dedans, au-delà de l'œil nu. Elle a déjà aperçu une météorite, des comètes. Comment regarder plus loin ?
Astéroïde,
orbite, espace,
atome,
lumière,
coloriage,
spectral, étoilé,
nuage.
Pour nous, il y a vraiment une condition sine qua non, peut-être le béaba de notre travail, c'est la concentration. Or, tout dans notre société moderne s'oppose à la concentration. Je veux commencer ma journée avec des maths dans la tête et pas des flashs d'informations sur le Brexit ou Trump. Les moments les plus extraordinaires, c'est les moments où on se met vraiment à réfléchir sans même l'avoir voulu. C'est là qu'on a besoin d'une liberté absolue. Et il arrive que, sans même y songer, je me retrouve tout d'un coup en train de faire des maths. C'est là que j'apprécie beaucoup d'être seule, de ne pas avoir de dérangement, d'avoir du temps, de pouvoir prendre 2 heures pour mon petit déjeuner en restant tranquillement comme ça, probablement les yeux dans le vide. Mais en fait, parce que je me suis mise à réfléchir et moi j'adore parce que comme je suis assez paresseuse et que j'ai vraiment du mal à réfléchir crayon à main, quand je suis à mon bureau, souvent, donc les moments où mon esprit se met à fonctionner tout seul sont des moments très très appréciables et d'ailleurs dans la réalité c'est beaucoup de progrès, des sauts qualitatifs où tout d'un coup je réalise que voilà, ça serait peut-être mieux de faire comme ça ou j'abandonne tout d'un coup une recherche qui ne marchait pas pour faire quelque chose de différent. Ces étapes se sont souvent réalisées alors qu'en fait j'étais vraiment en train de rêvasser en apparence. Bon, cette espèce de mode un peu automatique qui s'apparente plus à de la rêverie qu'à quoi que ce soit bien structuré.
On a besoin de se libérer l'esprit pour que des déclics se fassent plus facilement, pour que les choses puissent glisser l'une par rapport à l'autre. Pour ça, il est bon parfois de laisser la tâche mathématique et de faire autre chose, ou de simplement avoir presque un état de méditation. Certaines de mes meilleures idées sont venues pendant que je donnais le sein à mes enfants, parce qu'il faut être très relax à ce moment-là, parce que sinon ça ne marche pas physiquement et physiologiquement. Donc mon esprit, il ne danse pas réellement, mais il vague. Donc j'ai eu de bonnes idées à ce moment-là, oui, certainement.
Thank you.
491, 509, 593, 641, 653, 659, 680.
Il y a cette phrase extraordinaire de Baudelaire dans les correspondances. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Et je trouve que c'est tellement ça, notre relation en mathématiques. C'est exactement cette relation où nous avons l'illusion souvent que les objets mathématiques sont finalement peut-être pas des êtres vivants, mais des êtres avec qui nous communiquons. Il y a cette notion de familiarité qui correspond, à mon sens, à cette espèce de connaissance aiguë que nous avons des objets mathématiques. Dans la mesure où ils sont nés dans notre esprit et qu'ils sont des objets de langage, de pensée, ils sont éclairés d'une réalité, d'un éclairage très, très cru. On les connaît de façon beaucoup plus intime que les objets qui nous environnent, qui pour moi sont une source de perplexité. Je me reconnais très bien dans ce début de la nausée, où il est là avec cette racine. Et il a parfaitement raison, c'est incompréhensible tout ça. Pour moi, le monde mathématique, c'est vraiment à l'opposé. C'est un monde d'intelligibilité où les objets nous sont familiers parce qu'ils sont profondément de la même nature que nous. Et ils sont vraiment à l'opposé de la contingence.
La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis, et avec eux, la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul, en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Une femme puissante qui soupire, une femme insolente qui aime, une femme inspirée qui travaille, une femme assurée qui chante, une femme compétente qui se réjouit, une femme confiante qui pleure, une femme forte qui psalmodie, une femme fière qui vient, une femme fière qui devient elle-même.
C'est quand même très clair qu'actuellement, les femmes scientifiques sont propulsées sur le devant de la scène, mais elles sont aussi un petit peu, on ne va pas parler de ségrégation, mais on a créé une catégorie spécialement pour elles. Du coup, est-ce qu'une femme scientifique actuellement peut vraiment se considérer comme de plein pied avec ses collègues masculins? Est-ce qu'elle peut prendre pour argent comptant sa visibilité, sa reconnaissance? Tout maintenant est un peu empoisonné par ces idées de... Bon, il n'y a pas toujours des quotas, mais souvent les gens vont cacher les quotas sous une forme ou sous une autre. Toutes ces démarches ont tendance à mettre un peu insidieusement dans l'esprit des gens le fait que les femmes scientifiques sont arrivées là où elles sont parce qu'on les a aidées. Si on les a aidées, c'est que somme toute, elles avaient besoin d'être aidées. Qu'est-ce qu'on donne réellement aux femmes ? quand on donne un poste, mais qu'elle doit porter ensuite toute sa vie le sentiment qu'elle a eu ce poste parce qu'elle était une femme, ce n'est pas un bon cadeau. Est-ce que c'était vraiment un don? Il y a des choses comme ça. Il faut être une femme d'élite, comme Émile Noether, Marie Curie, dont le niveau était tellement évident et s'imposait tellement par lui-même pour avoir le respect authentique des hommes d'égal à égal. Et il était hors de question qu'un traitement de genre ma petite cocotte s'applique à elle. Mais malheureusement, actuellement, on voit, je trouve, une sorte de tendance au traitement un peu condescendant. On appelle les femmes à venir dans les départements de mathématiques. On pensait bien qu'il y ait plus de femmes, mais finalement, est-ce que par derrière, on pense à elles pour la valeur de leur travail scientifique? Est-ce qu'il va en être question à un moment donné? Ce n'est pas ce que je vois, moi.
Genre.
Identité.
Librement mixte.
Inconnu.
Parité. Liberté.
Parité. Inégalité.
Parité. Libre. Origine.
Incomplétude.
Oubli. Idée. Rationalité.
Matrice.
Parité. Matrice.
Oubli.
Origine.
Sorcière.
Perspective.
Irrationnel.
Presque. Mixte.
Oubli. Magique.
Parité. Mixte.
Oubli. Liberté.
Trotta de Salerne. Cher Trotta de Salerne, je vous écris de Bruxelles sur un ordinateur à la tombée d'un jour, au début du XXIe siècle, dans un français plus ou moins standard. Vous écriviez au XIe siècle, ou XIIe siècle, on ne sait pas bien, à Salerne, au temps des Normands, sur un parchemin coûteux en latin. J'écris consciente du temps qui me sépare de vous, de l'altérité contenue dans ce temps. Si nos mots survivent, sur quel support les lira-t-on dans 10 siècles? Et quel rapport les lecteurs entretiendront-ils avec leur corps? La notion de femme en tant que sous-catégorie de l'humanité existera-t-elle encore? Vous vous appelez Trotta et non Trotula. Trotula est un diminutif. Vous enseignez à l'école de Salerne. On vous appelle quasi-magistra, c'est-à-dire presque maîtresse. Pourtant, vous faites autorité dans toute l'Europe et vous le savez. On traverse le continent pour vous entendre parler. Et vous touchez les femmes, leur ventre, leurs utérus. Vous recousez leur périnée. Vous leur parlez de la stérilité qui n'est pas l'apanage des femmes, de la virginité qui se reconstruit, et des règles, de la fatigue, de l'âge. Vos confrères masculins ordonnent à distance. Ils ne touchent pas, ne posent pas les yeux sur les vagins écorchés, les seins crevassés, et probablement, comme c'est encore souvent le cas, ils évitent le regard inquiet de la femme couchée sur le lit. Vous avez rassemblé vos connaissances. Laissez une trace de votre expérience. On vous y a peut-être encouragé. Vos mots étaient nécessaires. Ils ont voyagé du sud au nord pendant plusieurs siècles. Les femmes y trouvaient des remèdes, des explications, un miroir à leur intimité et peut-être la certitude qu'enfanter dans la douleur, grandir dans la honte, n'est pas nécessaire, que les mots peuvent être prononcés. Mais surtout, vous dites « nous ». Lorsque survient telle souffrance, nous offrons tel remède. Cette douleur, nous y apportons le soulagement de telle façon. Vous n'êtes pas seul au laboratoire, à l'école et à l'infirmerie. Vous faites équipe. Ce que vous transmettez, vous l'avez d'abord reçu. Vous vous inscrivez dans une chaîne de sens, d'actes, dans un tissu de liens. Aux abords de la nuit, pourtant, entre veille et sommeil, les images déferlent. Les ondulations du fœtus sous vos mains dans l'eau glacée. Vos mains réchauffées l'une contre l'autre avant de toucher la peau nue. Vous glissez les doigts dans le ventre de la femme, à la recherche de l'enfant. Le petit crâne humide et chaud remplit votre paume. Les rires, les larmes, la consternation, les petites victoires, l'intimité des corps. Et les moiteurs de l'après-midi, l'odeur de la fièvre, celle d'un jardin de simples, l'odeur de l'encre et du papier roulé, les plantes arrachées à la rocaille, la fraîcheur des bibliothèques, le silence dans les couloirs du monastère et le bruit des croisades au loin. Qu'avez-vous pensé des croisades ? Ce regard échangé au moment où la naissance et la mort se frôlent, ce regard qui nous relie. Et puis peut-être elle a pensé qu'un jour il sera possible d'avoir un corps de femme et de le regarder sans crainte parce qu'on le connaît et qu'on sait comment le protéger, en prendre soin. Je ne veux pas vous élucider. Mais s'il fallait imaginer une phrase quittant vos lèvres pour nous parvenir, elle parlerait des femmes qui vous ont faites, les initiatrices, coéquipières, les assistantes, disciples, celles qu'on appelait « femmes de Salerne ». Ce sont elles qui ont fabriqué Trotta. Et le cri des parturientes, les questions abandonnées la nuit, retrouvées le matin. La course à travers la ville pour retrouver celle qui vous aidera à penser. La sensation que le temps est précieux. Ce désir, s'incliner devant le corps que la vie travaille et la pensée que ce corps fabrique. Écouter, penser, essayer, comprendre, transmettre. Je regarde la tombée du jour. Je me dis que ce n'est pas tant une question de nom, le scandale, que la confiscation du savoir, le détournement du regard, l'interdiction d'exister. En effaçant votre nom des manuscrits, c'est l'ensemble de celles qui vous ont précédé, accompagné, prolongé, que l'on efface. Et tandis que l'aube arrive, je me prends à espérer votre réponse.
Marie Fairfax Somerville,
Émile Notaire, Hypatie d'Alexandrie,
Mariam Mirzakhani,
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil,
Nicole Reine Le
Jocelyne Belle Burnel,
Sophia Kovalevskaya,
Maria Gaetana,
Caroline Lucretia Herschel,
Rosaline Franck,
Esther Lettre,
Florence Nightingale,
Justa Adaria,
Marthe Gauthier,
Grace Murray,
Julia
Rosman,
C'était « Comment regarder plus loin ?», une réalisation de Mélanie Godin et de Renaud Lambiotte. Avec les scientifiques Ingrid Doboschi, Claire Voisin, Lucie Domino. Les textes de Christine Van Acker, Isabelle Dumont, Anne Penders, Véronica Mabardi. Les équations de Leda Gallué, Frances Kirwan, Coralia Cartis, Émy Notaire et les nombres de Sophie Germain. Lecture, Alexia Corradini, Claire Botson, Véronique Dumont. Prise de son, Mélanie Godin, Renaud Lambiotte, Corinne Dubien, Jeanne de Barcy. Montage, Corinne Dubien. Sound design, Elena Réveillère. Création musicale, Anne Lepère. Mixage, Jeanne de Barcy. remercions pour leur écoute Carmelo Iannuzzo, Caroline Berlinor, Bastien Hidalgo Ruiz, Camille Valençon. Une production de l'Arbre de Diane ASBL, réalisée avec le soutien de l'ACSR et du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et voilà, c'est la fin de cette émission à la découverte de la création sonore et radiophonique sur 48FM. Vous venez d'entendre « Comment regarder plus loin ?», un docu-fiction de Mélanie Godin et Renaud Lambiotte, un voyage sonore dans le monde des femmes, de la création et des sciences. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année à l'écoute de 48FM. À très vite. Thank you.